Circus sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. C'est donc Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, qui vous anime cette émission tous les lundis soirs. Donc au sommaire dans Cannabis Circus, un édito intéressant signé par des différentes personnes, un ex-élu écologiste de Marseille, un animateur du collectif citoyen Les Gabians, un militant du Front de Gauche, responsable des quartiers nord de Marseille, un médecin en santé publique et en prévention des risques, une conseillère départementale Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône, et donc qui tous ensemble publient cet édito, cette tribune « Marseille en finira avec la prohibition du cannabis et l'état de guerre dans les cités ». On reviendra un peu là-dessus. On va parler un peu de Saint-Ouen où Monsieur Cazeneuve est allé raconter un peu ce qui s'est passé pendant tous ces mois à Saint-Ouen et toute l'activité policière et bien sûr avec tout ce qu'ils ont mis en place, toutes les interpellations, le trafic à Saint-Ouen est terminé. Il y en a plus. Je rigole bien sûr. Ensuite, un article très intéressant du Dauphiné qui nous montre que depuis 1970, il y a une explosion de la répression, du nombre d'interpellations poursuivant les usagers du cannabis qui confirme un peu ce que dit le cirque depuis toutes ces années, c'est-à-dire que on nous ment quand on nous dit qu'on ne condamne plus à de la prison ferme des usagers de cannabis, de simples usagers. C'est faux, on n'arrête pas de le dire, et là il y a une étude de l'OFDT qui le confirme. En 2013, 1400 condamnations à de la prison ferme pour usage seul de cannabis, 1400 condamnations à de la prison ferme. Voilà. On reviendra sur cet article, sur les autres chiffres. Le marché des drogues qui dépasse les 2 milliards d'euros en France, un article du Figaro qui n'est pas spécialement intéressant. On lira ce qui est plus intéressant, c'est le communiqué de presse du cirque. Ensuite, si on a le temps, on ira voir un peu ce qui se dit dans Le Parisien où Valérie Pécresse a la très très mauvaise idée de vouloir dépister la drogue au lycée en mettant en place des contrôles systématiques. Ouais, bien rigolote celle-là. On ira faire un tour aux États-Unis où, pour la première fois depuis quelques années, la campagne pro-légalisation du cannabis aux États-Unis s'est heurtée cette fois à un refus. Ça se passait dans l'Ohio, qui a rejeté mardi 3 novembre dernier la question 3 qui proposait d'amender la constitution locale pour légaliser l'usage personnel et médical de la marijuana pour les habitants âgés de 21 ans et plus. On verra un peu ce qui se dit dans cet article du Monde, un article assez court, mais voilà, premier revers. Bon, ça veut pas dire que c'est fini, hein, au contraire, ils vont peaufiner ça un peu mieux, puis dans 2-3 ans ils remettent ça, et ça passera. On ira voir au Mexique, où la consommation de cannabis est désormais légale maintenant, depuis peu, et oui, ça paraît un peu surprenant, mais en tout cas au Mexique, qui avait déjà dépénalisé la possession et l'usage de petites quantités de drogue en 2009, là va plus loin, quoi. Et on finira par l'Irlande, un article du Temps Réel Nouvelle Obs, hein, l'Irlande qui veut décriminaliser la cocaïne, l'héroïne et le cannabis. Voilà, c'est encore pas fait, c'est en projet, mais visiblement c'est quand même... Il y en a qui trouvent qu'il faudrait aller plus vite. Voilà, avant de s'écouter un peu de musique, quelques petites brèves, une petite brève notamment un peu rigolote, ça se passe au Brésil. Au Brésil, des détenus qui purgeaient leur peine avaient réussi à dresser une souris qui était tenue par une longue ficelle à la queue, et du coup ils arrivaient avec cette souris à s'échanger entre cellules des différentes substances dont de la cocaïne, mais aussi des cartes SIM. Voilà, comme quoi tout est possible. Il y a quand même quelqu'un qui dit: la souris était si docile qu'elle se laissait même caresser la tête. Voilà, c'est le directeur de la prison qui disait ça. Donc, il se trouve que comme cette souris avait une longue ficelle attachée à la queue, un jour les surveillants ont réussi à tomber sur cette souris ils l'ont suivie. Et ils ont découvert qu'elle allait d'un pavillon à un autre, et quand le rongeur arrivait à sa destination, hop, les prisonniers prenaient la souris et tiraient la ficelle avec les objets. Voilà. Donc, à un moment ça n'a pas marché, les policiers ont quand même saisi 29 doses de marijuana et 23 de cocaïne, nous dit-on dans cet article de 20 minutes. Voilà, et avec des images de la vidéosurveillance, ils vont tenter de déterminer qui était le propriétaire de la souris. Voilà. Alors, si le rongeur a pu retrouver la liberté, le propriétaire du dit rongeur, lui, visiblement, n'a toujours pas, enfin, est toujours en prison. En 2009, dans cet article, on apprend que des détenus brésiliens avaient utilisé des pigeons pour faire entrer d'autres produits de contrebande dans leurs cellules. Voilà, tous les moyens sont bons pour communiquer. Quand on est incarcéré, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui ont déjà fait de la prison et qui ont entendu parler du yo-yo, ce qui s'utilise, une espèce de récipient attaché à des bouts de ficelle et de draps ou de têtes d'oreiller craquées, qui sert à se faire passer des objets de cellule à cellule. Par les fenêtres, voilà, ben là, ils avaient trouvé le yo-yo rongeur sur pattes dans la prison. Allez, un peu de musique et puis on revient. Et puis j'ai cru entendre que Hubert Félix Thiéfaine fêtait, je crois que c'est 50 ans de carrière. Donc on lui rend un petit hommage ce soir avec un morceau certainement l'un des plus emblématiques. À tout de suite.
Sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin à soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. On eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint.
La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint.
La fille du coupeur de joint, Hubert Félix Thiéphen. 50 ans de carrière depuis la semaine dernière, je crois bien. La fille du coupeur de joint, et en tout cas ceux qui ont profité du coupage des joints et qui ça donne à l'usage de cannabis. Il y en a certains, visiblement, ils sont mal tombés, ils ont rencontré la police. Alors, donc, comme je vous disais un peu avant la petite coupure musicale, un travail de l'OFDT, une étude a été menée et déterminée qu'en 2013, 1400 condamnations à la prison ferme pour usage seul avaient été prononcées. Là, c'est un petit peu de différent, c'est un article du Parisien. Ça se passe à Noisiel. C'est la police de Noisiel qui a interpellé deux jeunes gens en possession de cannabis. Le premier avait 22 ans, il était en train de rouler une fine cigarette vendredi 30 octobre. Place des Colibères à Logne, donc interpellé en flagrant délit en fait de roulage de cigarettes. En même temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on arrête quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, en tout cas, bon, la police ont trouvé sur lui 52 grammes de cannabis. Le copain qui était là, âgé du même âge, donc de 22 ans, qui est originaire d'Embrunville, il s'était fait remarquer, lui, le 2 novembre, square des Bergères à Logne. Apprend-on dans le Parisien, et à la vue de la police, il a tenté de se débarrasser d'un sac dans un sapin. Donc forcément, ça a mis la puce à l'oreille aux policiers, qui sont descendants, qui sont allés voir ce qu'il y avait caché dans le sapin. Il y avait 110 grammes de résine de cannabis et une importante somme d'argent. C'est vrai que bon, là, on est un peu quand même, on est au-delà de l'usage seul, je reconnais. En tout cas, dans cet article qui est assez court, hein, on nous parle pas de condamnation pour trafic ou usage revente ou quoi que ce soit. Ce qu'on lit, c'est uniquement que le premier détenteur de cannabis a été condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Meaux. Que le second a été condamné à 10 mois de prison ferme, aussi avec un mandat de dépôt. Voilà, donc, alors le deuxième qui s'est débarrassé d'un sac dans un sapin avec 110 grammes et une grosse somme d'argent, il est probable qu'on ait pu vouloir le poursuivre pour du trafic ou de la revente. Par contre, le premier qui avait 52 grammes sur lui, qui se prend 6 mois de prison ferme avec un mandat de dépôt à la barre le jour du procès, alors ça, c'est quand même une peine très lourde. Et puis voilà, puis 50 grammes, c'est pas une très grosse quantité non plus, hein, faut quand même être objectif, même si certains trouveraient que c'est beaucoup et que voilà, j'en entends déjà dire oui, mais il avait 50 grammes, il aurait eu 4 grammes, il se serait pas retrouvé condamné avec de la prison ferme et un mandat de dépôt à la barre, certes. Quoique. Donc bon, voilà, en tout cas, un exemple qui montre que ben, pour usage seul ou détention d'une quantité certaine de cannabis, on peut toujours, aujourd'hui encore, en France et en région parisienne, parce que j'en entends aussi souvent qui me disent « Oui, mais du côté de Paris, c'est moins sévère. » Là, à Meaux, visiblement, c'est pas très loin de Paris, mais le gars, il s'est fait condamner lourdement, quoi. 6 mois de prison ferme, c'est beaucoup. Voilà, j'insiste hein, encore une fois là-dessus, mais bon, en tout cas, les condamnations pour usage simple ou détention de quelques quantités de cannabis à de la prison ferme, voilà, ça existe toujours en France. Et encore une fois, j'insiste, hein, quand vous entendez des politiques nous dire qu'on ne met plus en prison de simples usagers, c'est faux. Voilà, c'est faux. On reviendra là-dessus un peu plus tard sur cet article du Dauphiné.com. Mais avant, je voulais quand même vous parler un peu de cette tribune publiée dans Libération, intitulée « Marseille, en finir avec la prohibition du cannabis et l'état de guerre dans les cités ». Une tribune signée Sébastien Barle, ex-élu écologiste de Marseille, animateur du collectif citoyen Les Gabians, Mohamed Ben Saada, militant du Front de Gauche, responsable du collectif Quartier Nord, Quartier Fort, et Michel Rubirola, médecin en santé publique et en prévention des risques, conseillère départementale Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône. Alors, à chaque règlement de compte, la surenchère sécuritaire et belliqueuse reprend de plus belle de la part des élus locaux et du gouvernement qui jouent les Pandores. Il existe bien un état d'urgence dans les cités à Marseille auquel il faut répondre, non pas par un recours chimérique à la guerre et à l'armée, mais par une autre politique de solidarité urbaine et de lutte contre les discriminations, la drogue et les trafics. Les quartiers nord de Marseille sont victimes depuis de plusieurs décennies d'abandon et des autorités locales, de promesses non tenues, de détournement d'argent public à des fins clientélistes, d'une politique de ségrégation sociale, de ghettoisation, de sanctuarisation de la misère sociale et d'enclavement. Cela a produit une situation de quasi-apartheid avec un taux de chômage énorme dans la jeunesse de ces quartiers et le développement d'un marché de la débrouille pour survivre qui produit aujourd'hui les dérives de violence que l'on connaît. Cela fait maintenant des années que les acteurs et militants de terrain de ces cités alertent sur le caractère explosif de la situation. Jeter de l'huile sur le feu, comme l'a fait tout récemment le maire de Marseille sur une radio nationale, entre parenthèses France Inter, mais aussi le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur n'est certainement pas la solution pour apaiser les quartiers phocéens et y ramener le calme et la paix. Il faut remettre en action les services publics dans ces quartiers abandonnés, compenser les inégalités et les discriminations subies, mettre en place espaces de dialogue pour créer de l'activité durable dans les quartiers nord de Marseille en évitant l'effet stigmatisant du zonage territorial, soutenir la vie associative et les initiatives citoyennes victimes d'une double peine en raison des dérives énoncées lors du procès Andrieux ou les affaires Guérini. Lançons enfin un vrai débat public sur la prohibition du cannabis et les débats qu'elle génère. Logique de cartel, balkanisation, règlement de compte pour le contrôle d'un territoire. Exigeons la mise en place à Marseille d'une conférence nationale de consensus réunissant experts, monde médical et judiciaire, éducateurs, acteurs associatifs et institutionnels des quartiers, autour de la question de la prohibition et de la légalisation du cannabis. Il est dommage que cette question ne soit même pas envisagée comme pouvant être une piste pour lutter contre les trafics mafieux de stupéfiants et ramener le calme dans certaines cités gangrénées par ce trafic et les règlements de compte qu'il entraîne. La légalisation du cannabis permettrait de faire baisser le trafic et d'empêcher la lutte armée entre les trafiquants, mais surtout de mener une politique de santé publique fondée sur la prévention et l'accompagnement des usagers dépendants. La guerre policière contre le marché du cannabis est perdue d'avance. Il y a en France 1 200 000 usagers réguliers et 4 millions de fumeurs occasionnels. Chaque année, 568 millions d'euros sont jetés dans un grand tonneau des Danaïdes dans le volet répressif du cannabis. Le cannabis doit être traité comme les autres drogues légales que sont le tabac et l'alcool. La création d'un marché régulé du cannabis est défendue par de hauts responsables internationaux comme Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, ou Daniel Vaillant, ex-ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Dans son rapport de novembre 2014, publié par l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites a d'ailleurs reconnu que la politique de prohibition n'a pas empêché le développement de l'usage des stupéfiants, et notamment du cannabis, préconisant une dépénalisation de son usage. L'une des deux co-rapportrices de ce rapport, Anne-Yvonne Le Dain, PS, propose même de légaliser l'usage individuel du cannabis dans l'espace privé. En décembre 2014, le think tank Terra Nova va plus loin encore, estimant que la légalisation permettrait de mieux accompagner les populations en difficulté en allouant des ressources conséquentes, à la prévention, en particulier chez les jeunes adultes. Elle assurerait un meilleur contrôle du niveau général de la consommation de cannabis en agissant sur les prix d'acquisition plutôt que sur une répression inopérante. Ce système générerait entre 1,3 et 2,1 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles. Ce scénario permettra en outre de créer 13 000 emplois pour le simple commerce auquel il faudra ajouter les emplois dans la production locale. Les expériences récentes de légalisation dans 4 États fédérés américains, Oregon, Colorado, État de Washington et Alaska, sont convaincantes et rapporte des ressources pour les finances publiques et les systèmes de santé publique. La comparaison avec l'Amérique prohibitionniste d'Al Capone des années 30 est flagrante à Marseille. Les États-Unis ont choisi de rompre avec la prohibition car elle posait plus de problèmes en matière de sécurité publique, notamment qu'elle n'en résolvait. Il est devenu nécessaire d'expérimenter un marché régulé du cannabis, sans pub et avec un accès limité, pas d'accès aux mineurs. C'est la seule réponse pragmatique à apporter face à l'explosion du trafic et des règlements de compte. Ce n'est pas faire preuve de laxisme, mais au contraire d'un sens des responsabilités que de réclamer ce genre de choses. Puissent les autorités publiques être à la hauteur de cette éthique de responsabilité en ouvrant enfin le débat. La prohibition tue à Marseille comme ailleurs. Voilà. cette tribune intéressante. Alors c'est un élu, c'est un politique des Républicains qui a déclaré peu avant ce week-end là que, à propos des Verts, c'est pour vous dire un peu le niveau. Cet élu républicain, a dit que les Verts n'avaient jamais rien fait pousser d'autre dans leur vie que du cannabis sur leur balcon. Voilà, ça c'est dit. Donc, je ne sais pas comment le prendront les anciens élus écologistes comme Sébastien Barle ou Michel Rubirola, qui apprécieront sans doute la boutade. Voilà, c'est assez désolant que de pouvoir lire ça. Ce qui est encore plus désolant, c'est qu'encore une fois, on réduit le cannabis à une substance psychoactive, alors que il y a quand même tellement d'autres applications possibles avec cette plante, que ce soit en termes cosmétiques, agricoles, industriels, écologiques. Enfin, c'est quand même assez incroyable que certains et certaines personnalités politiques aient un esprit aussi étroit sur la question. Ils sont quand même extrêmement ignorants sur le sujet. Il ferait mieux d'écouter Cannabis Circus de temps en temps. Malheureusement, je ne pense pas que ça les intéresse. C'est bien dommage. On va rester un peu dans ces histoires de trafic, de lutte contre le trafic. Alors, ici, il y en a bien un qui s'est un peu ridiculisé dans la semaine. C'est bien notre ministre de l'Intérieur, Michel Cazeneuve, qui a fait une conférence de presse vendredi dernier à Saint-Ouen pour dresser un bilan du plan spécifique de lutte contre le trafic de drogue qu'il a lancé au mois de mai après la série de fusillades qui avait eu de règlements de compte entre bandes rivales. Hein. Enfin bon, ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, on n'a pas non plus les résultats des enquêtes policières. Donc entre le 25 mars et le 8 mai, il y avait eu 9 tirs de fusillades qui s'était déroulé à proximité des principaux points de deal, nous dit-on, faisant 5 blessés. Alors là, oui, c'est possible que ce soit pour des raisons de règlement de compte liées au trafic de cannabis. Mais nous dit-on dans leparisien.fr, la scène la plus choquante a eu lieu en plein après-midi du 30 avril au cœur de la cité Cordon. 3 consommateurs ont été touchés par balle. Le drame a été évité de peu. Peut-on lire ? Une telle situation d'insécurité est intolérable, a rappelé vendredi dernier Monsieur Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Et donc 6 mois après les mesures renforcées contre le trafic prises par ce même Bernard Cazeneuve, ce dernier estime donc les premiers résultats particulièrement encourageants. Et donc écoutez bien, depuis le mois de mai, 1316 personnes ont été interpellées à Saint-Ouen, dont 881 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ces arrestations ont concerné également 732 acheteurs, 94 vendeurs, 29 guetteurs et 3 livreurs. Sur cette période, les descentes ont permis de saisir plus de 39 kilos de cannabis. C'est-à-dire rien. Franchement, s'ils ont fait tout ça pour récupérer 39 kilos, c'est vraiment pas grand-chose. 41 439 euros en avoirs criminels, tout ce qui est très très peu également. Et plusieurs armes, et nous dit-on notamment une Kalachnikov et 6 pistolets automatiques et un fusil. Mais la particularité du plan est d'avoir systématisé les opérations conjointes police-douane à l'encontre des consommateurs de cannabis venus s'approvisionner à Saint-Ouen. Le but était donc de les dissuader d'être des clients, on nous avait déjà expliqué ça. En les tapant au portefeuille, les clients. Donc sur les 732 acheteurs interpellés depuis mai, 385 ont fait l'objet d'une transaction douanière, autrement dit d'une amende. Ben voilà, c'est formidable. On est en pleine dépénalisation, ou en tout cas en pleine décriminalisation et en pleine contraventionnalisation de l'achat de cannabis, de l'achat du cannabis. C'est vraiment incroyable. Il croit qu'il... Enfin, je sais pas comment dire. Je continue. En parallèle, toujours dans cet article du Parisien, des détachements de 40 CRS ou gendarmes mobiles ont été placés dans la ville afin de sécuriser les quartiers, en particulier durant des plages d'horaires sensibles en début de soirée, hein, c'est-à-dire quand les consommateurs et les acheteurs viennent faire leurs courses dans le quartier. D'ailleurs, on nous dit que depuis 6 mois, il n'y a eu aucune fusillade. Voilà. Monsieur Cazeneuve de rajouter qu'il est inacceptable que des halls d'immeubles des cages d'escaliers, des places ou des squares, voire des quartiers entiers soient confisqués par des trafiquants. Nous ne tolérerons jamais aucune zone de non-droit, dit notre cher ministre. Et néanmoins, il reconnaît quand même la complexité de sa tâche. Et il nous dit, les guetteurs et les revendeurs ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Derrière eux, il y a toute une organisation opaque. Alors écoutez bien, il y a des bandes de petits et de grands délinquants qui cherchent à imposer leurs lois dans les quartiers où ils sévissent. Il y a des mafias, des tueurs, des criminels dangereux qui appartiennent au grand banditisme. Il y a aussi des trafiquants et, tenez-vous bien, dans le quartier, dans la cité, des criminels en col blanc. Mais non, monsieur Cazeneuve, je ne suis pas sûr que les criminels en col blanc ils soient dans les quartiers. Les vrais, ils sont plutôt à chercher, je ne sais pas, dans des banques, des conseils d'administration de... des entreprises du CAC 40, voilà, je suis pas sûr qu'à Saint-Ouen, on ait vraiment le gratin de la criminalité en col blanc qui profite le plus, voilà, c'est hallucinant, quoi. Voilà, en tout cas, merci Monsieur Cazeneuve, en tout cas, jusqu'à présent, il ne nous semble pas avoir entendu parler d'une fin du trafic dans ce quartier. On en avait même parlé il y a quelques semaines, il y avait eu un article où les riverains disaient que globalement rien n'avait changé, et que les trafiquants, ou en tout cas les revendeurs avec le petit business, le petit cirque qui se met en place tous les soirs, s'étaient déplacés de quelques centaines de mètres. Voilà, donc bon, a priori, rien de bien extraordinaire non plus. Voilà, on va s'écouter un peu de musique. Alors, vous avez entendu, ce soir, je suis tout seul. Il n'y a pas d'autre voix que la mienne. Donc, je m'en vais vous passer un petit morceau. Voilà, je suis arrivé à le caler. Allez, à tout de suite.
Remember when your dead the chaman gets up. Souviens-toi quand tu meurs, qu'un chaman naîtra. Children of Samal, watching boys, oh, men, girls, and prospering like a girl. This is a dream we made a long time ago. be and dream the prophecies. Remember when you're dead at the coming get up. Souviens-toi quand tu meurs qu'un chaman naîtra. Remember when you're dead that the chaman gets off.
Ouais, retour à l'actu, retour au direct, et on vient de s'écouter Lojo. Alors j'ai un collègue qui est venu m'aider, donc je suis plus tout seul, je me suis déplacé et j'ai plus le titre du morceau sous les yeux.
Fils de Zamal.
Fils de Zamal, voilà. Fils de Zamal à Zion, non ? Bon. Voilà, donc on continue notre revue de presse hebdomadaire, notre revue de presse du lundi soir. Ah bah oui, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 MHz, Radio Canu, la plus rebelle des radios bien évidemment, et entre 21h et 22h tous les lundis soirs, l'émission du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche sur le cannabis. Le Cirque Lyon qui vous présente tous les lundis soirs l'émission Cannabis Circus. Voilà, donc alors on va maintenant parler de ce fameux article du Dauphiné.fr intitulé « Les interpellations et condamnations pour usage de drogue en forte hausse ». Alors en forte hausse depuis 1970, mais aussi en forte hausse depuis le début des années 2000. Puis pas de baisse hein, depuis que notre président soi-disant socialiste est au pouvoir. Eh ben non, son premier ministre puis son ministre de l'Intérieur... de redoutables guerriers de la lutte contre la drogue, une guerre qu'ils ont déjà perdue depuis bien longtemps. Voilà, bon, visiblement, ça n'a pas l'air de les inquiéter de se battre pour une cause qu'ils ont perdue, mais bon, ça coûte juste cher à, ça coûte cher. À qui ? Bah, à nous, hein, à nous les contribuables, hein, qui tous les ans contribuons, malgré nous, à cette guerre perdue, et tous les ans, c'est 568 millions d'euros jetés à la poubelle. Voilà. Donc cet article du Dauphiné.com, donc depuis, alors c'est un travail de l'OFDT, hein, voilà, donc c'est un organe officiel français. L'OFDT raconte que dans les affaires de, voilà, alors je me retrouve, hein, j'avais perdu la ligne du début. En fait, les interpellations d'usagers ont augmenté trois fois plus vite que celles d'usagers revendeurs ou de trafiquants. Selon une étude de l'OFDT, le cannabis est en cause dans 90% des cas. Voilà, bon, ce que dit le cirque hein, depuis plus de 20 ans. Quoi. Depuis la loi du 31 décembre 70, l'usage de drogue est sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à 3750 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Alors ça, c'est pour l'usage simple. Hein. Voilà, par exemple, vous êtes dans la rue, comme ça, hop, vous fumez un joint de cannabis, la police vous tombe dessus. Ils peuvent vous mettre un an de prison ferme, voilà, plus 3750 euros d'amende. Le nombre de personnes interpellées par la police ou la gendarmerie pour ILS, infraction de la législation sur les stupéfiants, a été multiplié par 50 depuis 1970. 50. Passant de 4000 à près de 200 000 en 2013. 200 000, voilà. D'après l'OFDT. Donc. Parmi ces personnes, 83% ont été mises en cause pour usage. 83% pour usage. Hein. 9% pour usage-revente, 6% pour trafic et 2% pour d'autres infractions liées à l'ILS. Donc, encore une fois, ça confirme ce que dit le cirque depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, cette loi n'est pas utile pour débusquer les trafiquants. Il y en a très très peu, finalement, qui sont concernés par la loi. Cette loi, elle sert en fait à arrêter et à emmerder des usagers de cannabis. Voilà, tout simplement. Donc, depuis 70, les interpellations d'usagers ont augmenté 3 fois plus vite que celles d'usagers revendeurs ou de trafiquants, nous disent les chercheurs. Le cannabis est en cause dans 90% des procédures pour usage. L'essor des interpellations pour usage simple s'est accompagné d'une systématisation et d'une diversification des réponses pénales, note l'auteur de l'étude, une certaine Ivana Obradovic. Et la transaction pénale, qui doit permettre aux policiers de faire payer directement une amende en cas de petit délit pour éviter le passage devant un tribunal, pourrait renforcer le caractère systématique de la sanction, nous dit cette Madame Obradovic. Depuis les années 90, les parquets ont développé des alternatives aux poursuites qui permettent de limiter les classements sans suite pour les infractions de faible gravité. En 2014, les juridictions ont traité 102 517 affaires d'usage de stupéfiants, soit 2/3 environ du volume annuel d'interpellation. Voilà, donc bon, c'est vrai que les classements sans suite, il y en a de moins en moins. Les alternatives aux poursuites représentent près de 3/4 des décisions prononcées, ce qui est quand même beaucoup. Ah, bon. Le rappel à la loi représente 83% de ces alternatives devant les mesures à composantes sanitaires, comme par exemple les injonctions thérapeutiques et les classements avec orientation socio-sanitaire, 13% seulement. En 2013, 56 697 condamnations judiciaires ont été prononcées pour les infractions de législation sur les stupéfiants, soit 2 fois plus que 10 ans auparavant. Parmi elles, 59% le sont pour usage illicite, 23% pour détention-acquisition, 12% pour commerce et transport, 4% pour offre et cession, et 2% pour trafic ou autre. Voilà. En 2013, le nombre de condamnations pour usage simple a atteint son niveau le plus élevé, soit 33 645. Voilà, le nombre de condamnations pour usage simple en France, 33 645. C'est énorme, énorme. Les peines alternatives à l'incarcération, amende, jour amende ou travail d'intérêt général, représentent les 3/4 des sanctions prononcées pour usage illicite. Voilà, ce qui est beaucoup. Heureusement que c'est pas l'inverse. Hein. Mais en 2013, hein, comme je le disais en début d'émission, en 2013, 1400 condamnations à de la prison ferme pour usage seul. 1400. Voilà. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, je crois pour la 4e ou la 5e fois ce soir, mais on met en prison encore 1400 personnes à de la prison ferme pour usage seul. Voilà, 1400 condamnations. Alors, je sais pas si ça fait 1400 personnes, il me semble bien. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Il y a 20 ans, par exemple, on disait qu'il y avait entre 500, 800, 1000 personnes qui prenaient de la prison ferme pour usage seul. Et ben, c'est en augmentation. Voilà, tout simplement. Il y a encore plus d'usagers de cannabis qui sont poursuivis et qui peuvent se voir condamnés de la prison ferme. Alors, c'est vraiment le point noir, le gros point noir. Alors que, comme je viens de vous le dire dans l'article, il y a quand même pas mal de peines alternatives à l'incarcération qui sont prononcées, ça représente les 3/4 des sanctions. Donc tant mieux. Mais voilà, sur mécaniquement, avec le nombre de personnes poursuivies, bah forcément, on a aussi plus d'incarcération. C'est d'une logique implacable. Hein. Faut pas espérer que en criminalisant plus, on fout la paix à plus de gens. C'est pas possible. Hein. Je veux dire, s'il y en a qui croient à ça, on dirait que les politiques y croient et qu'ils veulent nous le faire gober, mais vraiment, ils nous prennent pour des cons, quoi. Hein. Faut arrêter. Voilà. Donc, merci pour l'OFDT et Madame Obradovic, auteur de l'étude, de nous rappeler ces chiffres qui permettent une fois de plus de visibiliser l'ampleur de la criminalisation Et ce qui manque un peu dans cette étude, c'est un peu de savoir d'où viennent les personnes poursuivies, en fait, leurs origines socio-culturelles, socio-professionnelles. Et leur lieu de résidence également. Je ne suis pas sûr que la plupart de ces personnes qui sont poursuivies viennent du 16e arrondissement de Marseille, des quartiers bourgeois de Lyon, de Bordeaux, de Lille ou de Marseille ou de Toulouse. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ce sont, à mon avis, mon intuition me dit que c'est plutôt des jeunes et des jeunes qui vivent plutôt en périphérie des grandes villes, quoi. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est ça la réalité. Voilà. Donc on va continuer, on va se repasser un peu de musique, tiens. Un petit coup de musique, allez, avant de revenir sur le marché de la drogue qui dépasse les 2 milliards d'euros en France. On va pas y rester 107 ans, mais je vous lirai le communiqué de presse du cirque par la suite. À tout de suite.
Gone, gone, gone. One, two. One, two, three.
Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. 'Cause I feel happy anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all, don't make my joints so small. 'Cause ganja, ganja, ganja's right for me. 'Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana.
Ow!
Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana
is what we need.
Castafiore Bazooka, Marijuana, mon collègue n'est pas là ce soir, mais c'est son morceau préféré, alors on lui a fait une petite dédicace ce soir. Voilà, donc on retourne à l'actu, un article du Figaro.fr, le marché de la drogue qui dépasse les 2 milliards d'euros en France, hein, pas dans le monde, hein, en France. Mais d'où c'est que ça sort un chiffre pareil? Ça sort d'une étude de l'Institut National des Hautes Études sur la Sécurité et la Justice, l'INESJ, I-N-H-E-S-J. Voilà, qui nous dit que le marché illicite des stupéfiants a représenté donc 2 milliards 300 000 euros en 2010, avec un chiffre d'affaires en hausse dans tous les secteurs, cannabis, cocaïne, héroïne et drogue de synthèse. Donc dans ce créneau professionnel-là, ou de business-là, visiblement, il n'y a pas de crise. Hein. Il n'y a tellement pas de crise que quand il y a eu la crise en 2008, le système bancaire a pu bénéficier de l'afflux de liquidités provenant des trafiquants de drogue, ce qui a permis de juguler énormément la crise. Voilà, l'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu. Donc, 2 milliards 300 000 euros, c'est donc la dernière estimation. Le cannabis, tenez-vous bien, génère un chiffre d'affaires à lui seul, estimé à une valeur de 1117 millions d'euros, soit une augmentation de 33% entre 2005 et 2010. Le volume moyen de transactions, 154 tonnes en 2010, reste stable. Et on nous dit, ah oui, un produit par ailleurs plus chargé en substances actives pour une même quantité standard de cannabis. C'est possible, j'ai jamais vu les études scientifiques rigoureuses qui prouvent ça, hein, par contre. Hein, alors ça, sur l'affaire des drogues en général, tout peut se dire et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on apprend également? Que le prix de détail de la cocaïne a quasiment été divisé par 3 entre 1990 et le milieu des années 2000, passant de 150 euros le gramme à 60 euros, voire moins en fonction du lieu de vente et de la qualité du produit. L'héroïne confirme quant à elle son retour. Selon les chercheurs, son marché est estimé entre 204 et 329 millions d'euros en 2010 pour des quantités consommées entre 5,1 et 8,2 tonnes. L'étude dresse enfin une estimation inédite des drogues dites de synthèse limitées à l'ecstasy et la MDMA et aux amphétamines. Mais l'ensemble du marché pour ces drogues de synthèse est estimé à une moyenne de 55,2 millions d'euros en 2010. Voilà. Donc le communiqué de presse du cirque marché des drogues en France, 2,3 milliards d'euros hors taxes. Un chiffre à peine surprenant que celui des profits réalisés hors de tout contrôle d'État. Une somme rendant dérisoire celle allouée à la lutte contre le trafic. 568 millions d'euros par an. Donc effectivement, c'est dérisoire. La prohibition rapporte donc aux grands réseaux criminels, mais pas que. Ils et elles sont aussi des centaines de milliers de petits cannabiculteurs ou cannabicultrices à faire profiter en France de petits réseaux de cannabinophiles soucieux de se procurer des herbes de bonne qualité, cultivés sans produits de synthèse, naturellement sous le soleil ou dans des chambres de culture. Ils et elles sont tout autant à participer aux récoltes, au séchage, puis à la manucure, taille des fleurs avant reconditionnement, ou à la transformation des déchets en résine après extraction. Partout en France, entre fin septembre et début novembre, l'on s'affaire dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Une économie souterraine qui, depuis plusieurs décennies déjà, permet à des régions de revivre, à des néo-ruraux et des néo-rurales, ici, de retaper leur maison, là, de commencer une activité artisanale. Des milliers d'individus, donc, que la société persiste à criminaliser, coincés entre la menace policière et judiciaire et la violence de commandos armés aguerris au braquage des récoltes, ne demandant pourtant rien d'autre que de mener leur activité agricole dans un cadre légal leur accordant des droits. Voilà, le marché des drogues en France, c'est pas que du business non plus. C'est pas que du trafic entre des producteurs et des acheteurs. Encore une fois, on le répète, mais ne focalisez le discours sur le cannabis que sur des trafiquants dans des quartiers, dans des banlieues qui sont elles-mêmes des zones de relégation sociale. Des ghettos où on a parqué... des citoyens de seconde zone, voilà, ça c'est le discours qu'on entend tout le temps. On ne parle pas de toutes ces autres personnes qui sont complètement en dehors de tout ça et qui, en tout cas, ne brassent pas des milliards d'euros. Voilà, bon. Alors, on continue au menu des réjouissances. C'est Valérie Pécresse, candidate aux élections régionales en Île-de-France. Valérie Pécresse qui dévoilait la semaine dernière, au milieu de la semaine, une mesure choc, comme l'ensemble de son programme, paraît-il. Ok, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains au régional en Île-de-France. Donc elle nous dit « La consommation de drogue a pour conséquence la démotivation, le décrochage et l'échec scolaire. Lutter contre l'usage de la drogue chez les mineurs, c'est ma responsabilité de candidate. » Alors, la démotivation, pourquoi elle fume pas, elle? Ça lui ferait peut-être du bien, et ça, peut-être ça la démotiverait pour se présenter, et ça serait peut-être pas plus mal, c'est bien dommage. Voilà. Donc si elle est élue, cette Madame Pécresse, si elle est élue présidente de la région, elle proposerait apparemment un dispositif pour le moins étonnant et détonnant au conseil d'administration des 470 lycées d'Île-de-France, à charge pour ces derniers de voter pour donner ou non leur feu vert. Et si le conseil est d'accord, les élèves n'auront pas le choix, ils devront se soumettre au test salivaire, et oui. Et elle dit, si un lycéen refuse, il sera considéré comme positif. Voilà. Elle espère convaincre les récalcitrants. Les tests seront, dit-elle, conduits par des associations indépendantes ou la médecine scolaire. Les directeurs d'établissement n'auront pas accès au nom des fumeurs, mais à de simples données statistiques. En revanche, les parents, eux, seront prévenus. Dernier étage de la fusée, si la proportion de consommateurs de cannabis est très élevée dans un lycée, un plan de lutte contre les dealers, avec vidéoprotection et présence des forces de l'ordre renforcées aux abords des établissements scolaires, à la clé, sera mis en œuvre. Coût estimé environ 2 millions d'euros pour financer les tests salivaires. Il coûte environ 13 euros pièce, nous dit Madame Pécresse. Et elle prévoit également de nommer dans chaque lycée un référent addiction. Et tout ça pour dans l'objectif de faire des lycées sans drogue. Voilà, bien évidemment. Donc ce référent addiction aurait pour mission d'alerter les élèves et leurs parents sur les dangers des psychotropes. Je crois que Madame Pécresse, elle ne sait pas que les étudiants et les lycéens, ils sont bien mieux informés sur le cannabis et les psychotropes qu'elle-même d'ailleurs. Mais bon, cette mission sera confiée à, ne sera pas confiée à un enseignant déjà en poste. Non, non, non. Cette personne en poste devrait percevoir une prime de 2000 euros annuels, ce qui correspond apparemment à un budget total pour la région de 940 000 euros par an. Voilà. Donc elle nous dit que d'autres pays européens comme la Belgique, la Hongrie, l'Irlande ou le Royaume-Uni ou encore la Finlande mènent des opérations de ce type, même si aucun ne pratique des tests systématiques. Ce qu'elle dit pas, c'est que dans ces pays, les lois sont quand même vachement plus plus tolérantes qu'en France. Hein. Ça, elle le dit pas. Donc, il y a déjà eu d'autres politiques qui avaient défendu cette idée. Alors, les meilleurs, hein, les meilleurs d'entre eux, Jean-François Copé, par exemple, en 2012, lors de sa campagne pour la présidence de l'UMP, ou encore le député Éric Ciotti, je vous avais dit, c'est les meilleurs, hein, en janvier 2014, avait aussi préconisé la mise en place de ces dépistages dans les établissements scolaires, mais sans succès. Pourquoi ? Bah, d'un point de vue juridique, la mesure est quand même difficilement applicable dans l'Hexagone, reste que le cannabis au lycée est une pratique répandue, nous dit-on en 2013, selon une étude de l'OFDT, encore 49% des lycéens affirmaient avoir déjà fumé un joint. Voilà. Dans cet article du Parisien est interviewée également une avocate, maître Isabelle Thieuleux, qui est avocate de l'association La Voix de l'Enfant, et qui dit que la mise en place de tests salivaires au sein d'un établissement scolaire se heurterait à un obstacle juridique. Actuellement, dit-elle, rien dans la loi ne permet ce type de dépistage sur des mineurs, cela paraît aujourd'hui difficilement applicable. Il rajoute que les tests salivaires tels qu'ils sont menés se font dans un cadre juridique strict et qu'ils sont notamment pratiqués par un officier de police judiciaire. Elle rajoute aussi quand même, a priori cette proposition ne se situe pas dans une optique de soins, même si c'était le cas, il devrait y avoir un accord des parents ou des représentants légaux des enfants. Détecter une substance ne signifie pas détecter une addiction, rajoute-t-elle. Effectivement, c'est bien de le souligner. Donc bon, en gros, c'est purement électoraliste, hein, ce genre de déclaration. Voilà, ça ne sert à rien, ça ne se fera pas. C'est juste pour brasser de l'air. Hein. Bon, ils ont l'habitude, ces gens-là. Alors le cirque s'est quand même fendu des communiqués de presse également. Je vous le livre. Définitivement conquis par les dernières propositions de Madame Valérie Pécresse à l'occasion d'un entretien pour le quotidien Le Parisien. La Fédération des cirques s'engouffre dans cette brèche démagogique ouverte par la candidate des Républicains. Donc le cirque, la plus ancienne des associations anti-prohibitionnistes cannabiques, propose donc que le dépistage des drogues dans les lycées soit étendu à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et pourquoi pas au Conseil des ministres. Alcool, effectivement, si tu veux, oui. Mais là, pour le cannabis aussi, il faut leur faire le test salivaire. Voilà. Il en va de la crédibilité de nos élus, qui feraient mieux, plutôt que de donner des leçons à la jeunesse, de lui montrer l'exemple. Voilà. C'est vrai que, à force de dire que les autres doivent se faire dépister comme si nous, on était tout blancs, comme si ces gens étaient tout blancs, c'est un peu facile. Voilà. Mais moi, je suis d'accord, hein. Franchement, vu qu'on n'arrive pas à mettre un terme à cette prohibition, moi, je suis pour la systématisation des contrôles, des arrestations, des fouilles dans des quartiers où ces gens-là ne vont pas faire leur contrôle et leurs arrestations. Voilà, il faut que tout le monde puisse se voir poursuivi pour des affaires de drogue ou de cannabis. Comme ça, ça serait plus démocratique. La ségrégation, il y en a marre. Voilà, j'exagère, je rigole, mais à peine, hein. Franchement, ça suffit, quoi. Bon, on va parler un petit peu des États-Unis et maintenant, et un petit peu du continent américain. Il nous reste une minute. Tout ça pour vous dire que la semaine dernière, mardi 3 novembre dernier, donc l'État de l'Ohio, aux États-Unis a rejeté une proposition de légalisation d'usage médical et récréatif du cannabis pour les habitants âgés de 21 ans et plus. Cette disposition prévoyait aussi d'autoriser la culture de la marijuana dans 10 sites de production détenus par des investisseurs privés. Et apparemment, c'est cette mesure-là qui a crispé une partie des électeurs. Donc bon, c'est pas perdu. C'est perdu pour ce coup-là, en tout cas. Mais peut-être qu'effectivement, les États-Unis étant un très grand pays avec dans chaque État et chaque comté des spécificités sociodémographiques, géographiques, culturelles. Bon, bref, peut-être qu'il faut réfléchir avant de proposer des lois locales, des lois qui soient vraiment ancrées dans la réalité sociale de l'État. Effectivement, peut-être que dans l'Ohio, des investisseurs privés qui cultivent du cannabis pour le vendre, c'est peut-être pas forcément très porteur. Donc les électeurs de l'Ohio ont dit non à un projet qui aurait permis à quelques-uns de gagner de l'argent aux dépens de la majorité, a déclaré Kurt Steiner, le directeur de la campagne des Ohioans contre les monopoles dans la marijuana. Voilà. Alors que de nombreuses familles sont déchirées par les questions de l'usage de la drogue, les gens de l'Ohio ont dit non à un accès trop facile à la drogue et ont choisi une voie qui aide à renforcer les familles et les communautés, a renchéré le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection de 2016. Bon, on ne sait pas de quel pourcentage ça a été rejeté. Mais en tout cas, c'est un petit échec. Mais bon, il y a d'autres États où ça va passer. Les efforts pour légaliser la marijuana vont reprendre dès le lendemain, a déclaré Ian James du comité Responsible Ohio, le leader de la Chambre des représentants de l'Ohio, le républicain Ryan Smith, lui opposé à la légalisation, affirme néanmoins qu'avec mes collègues, nous avons vu qu'il y avait un réel soutien pour l'usage médical de la marijuana, question pour laquelle nous aurons dû avoir un débat plus approfondi. Donc c'est pas fini, c'est pas perdu. Au Mexique maintenant, et on va terminer là-dessus, j'ai déjà 2 petites minutes de retard, je suis désolé. Donc au Mexique, faire pousser du cannabis et en posséder et en consommer pour des fins récréatives est légal. Voilà, au Mexique, en vertu des libertés individuelles de la personne, a statué le plus haut tribunal du pays mercredi, la semaine dernière, donc mercredi 4 novembre. Une mesure approuvée par 4 juges sur les 5 siégeant à la Cour suprême du pays. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, au Mexique, le cannabis et la consommation et la culture sont légales. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, pour terminer, ce sera vraiment ça, comme ça que ça se terminera. Tu pourras nous mettre le petit générique de fin ?
Ouais.
Morceau numéro 4 du premier. Je crois que c'est le 4. Hein. Voilà, excusez-moi, j'en parle à mon technicien. Donc, l'Irlande veut décriminaliser la cocaïne, l'héroïne et le cannabis. C'est ce qu'a dit le ministre travailliste et responsable de la stratégie gouvernementale en matière de drogue la semaine dernière, en début de semaine. C'est ce que rapportait The Independent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis convaincu que nous avons besoin de changer la façon dont nous considérons l'abus de ces substances si nous voulons vraiment combattre l'addiction aux drogues et à l'alcool. Voilà, a expliqué à Odan O'Riordan, le ministre travailliste responsable de stratégie gouvernementale en matière de drogue. Et il compte sur une nouvelle législation dès l'année prochaine, d'après l'Irish Times. Voilà, donc l'Irlande qui va certainement changer sa loi. Il n'y a pas que aux États-Unis que les choses avancent, ou en Amérique, mais aussi en Europe. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus ce soir, lundi 9 novembre 2015. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous être fidèles. Merci à Michel, merci à Jacques, merci à Isabelle, merci à Christian et à tous les cannabinophiles auditeurs qui nous écoutent tous les lundis soirs, qui écoutent Cannabis Circus présenté par le Cirque Lyon. Cirque Lyon, BP 93043 69605 Villeurbanne CEDEX cirque-lyon@bosno-log.org et notre site internet cirque-lyon.fr et sinon aussi sur Facebook Cirque Lyon. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Maintenant, c'est Chasseurs de Son. Bonne soirée à toutes, à la semaine prochaine. Au revoir.